6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors là, Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Aujourd'hui, une grande institution culturelle, la Bibliothèque nationale de France.
Et oui, je suis en compagnie de Laurence Angèle, la présidente de la Bibliothèque nationale de France, qui après deux mandats va quitter son poste d'ici quelques jours. L'occasion de dresser un bilan et de comprendre les défis qui attendent son successeur, l'historien Gilles Pécou. Bonjour Laurence Angèle.
Bonjour.
Commençons par l'un des symboles de votre présidence, l'achèvement du chantier de rénovation du quadrilatère Richelieu, le site historique de la BN en plein centre de Paris. On peut tout particulièrement porter à votre crédit l'ouverture à tous de la grande salle ovale qui rencontre un succès conséquent. C'était important pour vous, Laurence Angèle, que ce site prestigieux ne soit pas réservé à une élite ?
C'était important d'ouvrir. La question de l'ouverture, elle est liée évidemment à celle de la démocratisation culturelle, comme on le dit. C'est en tout cas un motif qui est au fondement de mon engagement dans les politiques culturelles depuis 30 ans. Et je pense que dans une institution comme la Bibliothèque nationale, c'est d'autant plus important qu'elle incarne, c'est sans doute l'institution qui incarne le mieux, le plus finement, le plus largement, le plus sensiblement aussi, l'histoire de notre pays, l'histoire intellectuelle, culturelle, artistique, politique aussi. Et donc, lorsqu'on préside une institution comme celle-ci, on ne peut pas ne pas avoir en tête l'idée de son ouverture, en tout cas de la capacité qu'on a ou pas de rendre accessible cette histoire. C'est des collections vraiment extraordinaires et l'idée était de les rendre accessibles. Pas n'importe comment, pas en renonçant à d'autres missions, on y reviendra sans doute, mais de faire en sorte que tout un chacun puisse prendre conscience de ce qu'est la Bibliothèque nationale. Ces collections, c'est pas celles de la bibliothèque, il faut toujours l'avoir en tête, c'est les collections nationales, c'est-à-dire un bien commun. Il faut qu'on puisse s'en saisir, en avoir la compréhension sensible. Donc, c'est pas que la salle ovale, c'est aussi un musée. Il y avait vraiment ces deux idées dans celle de l'ouverture.
De l'autre côté de la Seine, le site de Tolbiac a peut-être été moins favorisé par vos mandats. La réforme de la communication des documents chercheurs en Red Jardin a créé une importante polémique. Les chercheurs, c'est un peu le public captif de la BNF, celui qui ne peut pas ne pas y aller. Dans un contexte de budget serré, Laurence Angèle, est-ce qu'il n'est pas tentant et risqué d'en faire une variable d'ajustement ?
Ah, ce serait une erreur, surtout. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu sur tout ce que vous dites. Richelieu, c'est en effet la partie visible, la plus visible de ce qui a pu être fait. Mais, et c'est, vous l'avez dit aussi, un succès. Donc une très grande fierté pour moi et une fierté au carré parce que ce que je vois c'est pas tellement le nombre de visiteurs qui est très important, vous l'avez dit, et le fait que cela rejaillit sur l'ensemble de l'institution parce que si en 2023 on a accueilli historiquement le nombre le plus important de visiteurs, ce n'est pas que à Richelieu, c'est sur les deux sites. Donc il ne faut jamais, à mon sens, privilégier un site sur l'autre, une mission sur une autre. Sinon, on fait erreur, on va dans la mauvaise direction et on conduit la bibliothèque à l'atrophie. Tolbiac n'a jamais été secondaire pour moi. Encore une fois, alors vous dites public captif, ça se discute parce que il n'y a pas de public captif, il n'y a que des publics qu'on va chercher, qu'on convainc de venir. Richelieu, c'est ce qui permet de comprendre ce qu'a été la politique culturelle, mais surtout la politique des publics. Lorsque je suis arrivée à la bibliothèque, ça faisait depuis une petite dizaine d'années que le public diminuait, année après année, et notamment dans les salles de lecture. C'était ça, la question. Et c'est celle-là que j'ai traitée, et en développant une politique des publics, ce qu'on appelle dans le monde des institutions culturelles, une politique des publics, c'est-à-dire s'adresser autrement aux gens, aller encore une fois les convaincre, expliquer tous les services nouveaux qu'on leur apporte. Et on s'adressait d'abord aux lecteurs, aux chercheurs et aux lecteurs. Donc, Tolbiac n'a pas été abandonné, et encore une fois, si on essayait de jouer les choses de cette manière-là, je pense qu'on se tromperait parce qu'on risquerait de dénaturer la bibliothèque, ce que je n'ai jamais voulu faire. Voilà. En revanche, il y a évidemment des problèmes budgétaires, c'est incontestable. Et Tolbiac est un bâtiment qui est daté, qui a été conçu à un moment où les questions énergétiques, les questions environnementales n'étaient pas présentes. C'est des questions qu'on traite d'ores et déjà.
Venons-y sur ces questions budgétaires et le bâtiment de Tolbiac. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, pourrait s'imposer, comme c'est le cas d'ailleurs dans le nouveau site de la British Library à Boston Spa, une communication différée des documents? Ça permettrait d'externaliser les magasins où on stocke les livres, de dégager des espaces à Tolbiac. Vous l'avez dit, c'est un bâtiment extrêmement cher, notamment à chauffer. Ça, c'est envisageable, Laurence Angèle?
Alors, dans une certaine mesure, c'est envisageable. C'est tellement envisageable que je l'ai conçu et préparé avec le nouveau site que nous sommes en train de construire. C'est vraiment une nouvelle étape dans l'histoire de la bibliothèque. À Amiens, on vient d'en désigner les architectes, donc le chantier est parti. On rentre dans des questions qui sont un petit peu arides, hein, celles de la gestion, mais réduire l'empreinte énergétique du site Tolbiac, c'est ce qu'on a déjà fait avec des efforts. On aurait pu faire mieux si, par exemple, on avait obtenu de pouvoir changer toute l'électricité, toutes les ampoules pour mettre des ampoules LED, mais ça n'a pas été retenu par le gouvernement. Mais il n'empêche qu'on a déjà fait beaucoup d'économies. Avec le site d'Amiens, une partie des collections va en effet être externalisée. Celles qui sont le moins communiquées et le moins utilisées par les usagers. Il faut toujours tenir compte de la réalité des usages, ne jamais contraindre de manière irraisonnable la pratique de la recherche. Encore une fois, la bibliothèque, c'est une bibliothèque de recherche. Et donc, il faut faire les choses de manière, en tenant compte de la réalité. Et puis, il n'y a pas que cela. Il y a aussi les personnes qui y travaillent. Parce que dans cette capacité que nous allons avoir, grâce au site d'Amiens, de libérer des espaces de réserve, hein, de stockage, en plus que de nous permettre de continuer l'histoire du dépôt légal numérique. Il y a la possibilité, c'est vrai, de, comme on dit, valoriser des espaces, de les louer. Il y a aussi la possibilité d'améliorer les conditions de travail. Je vous donne un petit exemple. Hein. Depuis que le site Tolbiac existe, il n'y avait pas d'espace de repos pour les agents à la lumière du jour. On les a déjà créés, donc il y a des améliorations qu'on peut faire d'ores et déjà.
Vous avez parlé du dépôt légal numérique, c'est un autre chantier de votre présidence, Laurence Angèle, moins visible peut-être, qui n'en est pas moins important pour autant. L'une des missions de la BNF depuis plus de 5 siècles, c'est de conserver pour l'histoire et la connaissance un exemplaire de toutes les publications. Différentes lois l'ont étendu au patrimoine dématérialisé. Où en est-on? Parce que un lanceur d'alerte a publié dans cet été sur Atlantico de nombreux documents attachés d'ailleurs à son article. Il a signalé que les livres numériques auto-édités échappaient au dépôt légal.
Ça, c'est absolument faux. Donc, le dépôt légal, c'est 1537. Donc, c'est, vous l'avez dit, une vieille histoire. Ça n'est pas que le livre, hein, qui est conservé, c'est toutes les productions. Donc, c'est la musique, c'est la presse, c'est les DVD, c'est les CD, c'est les plateformes, c'est le web. Parce que, en effet, si l'on veut que cette institution soit ce qu'elle est, c'est-à-dire, comme le disait joliment Alain René, la mémoire du monde, il faut étendre le dépôt légal à toutes les formes de production. Et donc, nous conservons le web et tout ce qui circule d'ores et déjà, et nous conservons évidemment l'auto-édition. Ce serait une erreur, là encore une fois, de ne pas le faire, puisque cela correspond à une réalité. C'est quasiment un quart de la production éditoriale aujourd'hui, donc c'est absolument considérable. Voilà, après, vous le dites très bien, hein, il y a une très importante part de l'activité de la bibliothèque qui n'est pas visible, qui est très technique, qui est très technologique. La bibliothèque, c'est depuis 30 ans une institution numérique. On est au cœur des enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais il faut faire prendre conscience de tout cela parce que c'est encore une fois un bien commun. Et ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à mener tous ces combats en même temps.
Merci beaucoup, Laurence Angèle, présidente de la Bibliothèque nationale de France. Merci.
Merci.